Chemin de vie. Amis auditeurs, soyez les bienvenus à l'écoute de notre rubrique Chemin de vie. Cette rubrique vous est proposée du lundi au vendredi à cette même heure. Une lecture de la Bible animée par notre équipe.
Composée de Jean et Heidi au micro, Daniel à la technique, ainsi que Jacques Yosti, notre chroniqueur.
Nous voici dans le chapitre 1 du Cantique des Cantiques, qui nous présente un tableau quelque peu bucolique. Un lit de verdure, des cèdres, des cyprès, un véritable enchantement, n'est-ce pas Jean?
C'est peut-être les prémices de la vie éternelle, Heidi, mais nous pourrions peut-être écouter quelques notes musicales pour introduire ces bons moments grâce à la chanteuse Sarai, qui nous interprète « Tout en moi ».
L'amoureux est presque toujours un homme qui, ayant trouvé un charbon ardent, le met dans sa poche en croyant que c'est un diamant. Ces paroles d'un certain Alphonse Karr ont sans doute quelques mérites. En tout cas, elles s'appliquent très bien au bien-aimé du plus beau des chants, mais dans le sens opposé à celui qu'a voulu donner son auteur, Alphonse Karr. En effet, et comme nous allons le constater, la Sulamite est bel et bien un charbon ardent, mais également un diamant. Je continue le Cantique des Cantiques avec la sixième photo de l'aventure amoureuse entre Salomon et sa bien-aimée. C'est le premier cliché qui les prend sur le vif en train de converser alors qu'ils font une promenade dans la campagne, loin des agitations du palais. Mais comme ils sont partis en douce, notre paparazzi invisible ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Quand il s'est aperçu de leur disparition, il est parti à la recherche. Finalement, il les a retrouvés et les a capturés sur son appareil de photo alors qu'ils se parlaient tendrement. « Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle, tes yeux ressemblent à des colombes, que tu es beau, mon bien-aimé, tu es délicieux, notre lieu de repos est un lit verdoyant, les solives de nos maisons ce sont les cèdres, et les cyprès sont nos lambris, moi je suis une rose qui pousse dans la plaine du Saron, un lys de la vallée, oui, comme un lys parmi des ronces, est ma bien-aimée parmi les filles, comme un pommier parmi les arbres de la forêt est mon ami parmi les jeunes gens. J'ai grand plaisir à m'asseoir à son ombre, combien son fruit est doux à mon palais. chapitre 1, verset 15 au chapitre 2, verset 3. Les deux amoureux sont radieux au milieu de cette nature enchanteresse où ils aiment se retrouver, car c'est dans un tel cadre grandiose qu'ils se sont connus et que leur aventure a commencé. Pour construire le palais royal, on avait dû couper et débiter des cèdres et des cyprès, mais ici, ces arbres majestueux sont les témoins de leur amour. Ce dialogue montre combien ces deux jeunes sont affectueux et très à l'aise l'un avec l'autre. Ils se sentent beaucoup plus libres d'exprimer leurs sentiments dans la verdure que dans le palais. En fait, c'est la première fois que nous assistons à une vraie conversation entre eux. Quand l'amour naît entre un homme et une femme, il leur est difficile de taire leurs sentiments l'un pour l'autre. Le roi peut enfin épancher son cœur et dire à sa bien-aimée combien il la trouve belle et combien ses yeux ressemblent à des colombes. Ces oiseaux symbolisent la douceur et la pureté, et de plus, d'après l'enseignement des rabbins juifs, une mariée qui a de beaux yeux aurait également un bon caractère. La Sulamite répond à l'élu de son cœur par une éloge similaire, puis elle se compare bien humblement à des fleurs ordinaires, un lys et une rose de Saron qui est une sorte de crocus ou un narcisse sauvage, jaune pâle qui sent très bon. Saron est une plaine fertile en bord de mer qui va de Tel Aviv au port de Raïfa, au pied du mont Carmel en Galilée. Cette vallée est luxuriante toute l'année et on y cultive beaucoup de fruits et légumes, dont des agrumes réputés. Le texte montre qu'au fil du temps, la Sulamite a évolué dans la façon dont elle se voit. Au début du récit, elle avait l'âme en peine. Au palais, elle se sentait mal, se trouvant noire, trop bronzée par rapport aux dames de cour, à la peau bien blanche. Intimidée, elle s'était alors excusée, disant « Ne vous étonnez pas si je suis bien brunie, le soleil m'a hâlée et ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Mais l'amour sincère et pur de son bien-aimé a fait un miracle dans son cœur. Maintenant, elle se compare à un lys et un narcisse, des fleurs banales peut-être, mais des fleurs quand même. Ce qu'elle pense d'elle-même a changé depuis que son bien-aimé a chanté ses louanges, et depuis qu'elle a commencé à se regarder au travers de ses yeux. D'ailleurs, lui continue sur sa lancée quand il dit « Oui, comme un lys, mais parmi les ronces !» En effet, si sa bien-aimée veut se comparer à une fleur modeste, d'accord, mais il précise qu'elle est unique et que par rapport à ce lys, les autres filles ne sont que des ronces laides et nocives, le pire de la mauvaise herbe. Les amoureux se sont engagés dans une sorte de joute ludique. La bien-aimée relève la balle et retourne le compliment disant « Comme un pommier parmi les arbres de la forêt est mon ami parmi les jeunes gens. » Si lors d'une balade en forêt, vous tombez nez à nez devant un arbre fruitier dans sa parure printanière, ce sera une bien agréable surprise. Le pommier de Syrie produit un fruit parfumé à la chair exquise. La Sulamite dit donc que pour elle, tous les hommes sont comme des arbres ordinaires alors que l'élu de son cœur est unique à cause de son parfum et de ses fruits. Implicitement, elle contraste également sa situation présente avec son premier état quand elle devait travailler dur sous le soleil dans les vignes et qu'elle n'avait pas le temps de prendre soin de sa personne. Maintenant, au contraire, la Sulamite dit « J'ai grand plaisir à m'asseoir à son ombre. Combien son fruit est doux à mon palais, ce qui signifie qu'elle a tout le loisir et le désir de profiter de la présence de son bien-aimé et de goûter l'affection et la tendresse dont elle est l'objet. » Ces métaphores montrent deux aspects de l'amour. D'une part, la Sulamite se sent protégée, et d'autre part, elle veut mieux connaître son bien-aimé afin de l'apprécier davantage. Selon l'interprétation typologique, « Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle » peut s'appliquer au peuple d'Israël, car un passage dit « L'Éternel n'a pas constaté de péché chez Jacob et il ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Fin de citation. Mais « Que tu es belle » s'applique aussi à l'Église universelle, car c'est ainsi que Dieu voit tous ceux qui ont placé leur espérance en Jésus-Christ. Pourtant, vous et moi, juifs et païens, nous sommes tous noirs encre de Chine à cause des péchés qui nous collent à la peau. Un prophète a écrit « Nous avons fait le mal et commis des fautes, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes révoltés contre Dieu en nous détournant de ses commandements et de ses lois. » Fin de citation. Si Israël, le peuple choisi, et l'Église sont beaux, ils le doivent uniquement au fait qu'ils reflètent la beauté de l'Éternel ou du Christ. Saint Augustin a décrit Jésus en disant « Il était beau au ciel, beau sur terre, beau dans le sein de la Vierge, beau dans les bras de ses parents, beau dans ses miracles, beau dans son martyre, beau sur la croix, beau dans le sépulcre, beau quand il a donné sa vie, beau quand il est ressuscité. » Fin de citation. Quand la Sulamite dit « Notre lieu de repos est un lit verdoyant », ces paroles font penser au célèbre psaume qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des prairies verdoyantes et il me dirige près des eaux paisibles. » Fin de citation. Une brebis s'étend dans l'herbe quand elle a bien mangé et qu'elle est satisfaite. Jésus a invité la foule qui le suivait, disant « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Fin de citation. Quand le Christ est né, on l'a placé dans une mangeoire sale, puis à sa mort dans un sépulcre lugubre, afin que vous et moi puissions nous étendre en sa compagnie dans les prairies verdoyantes du royaume des cieux. Quand la Sulamite dit « Moi, je suis une rose qui pousse dans la plaine du Saron, un lys de la vallée », elle se décrit comme une fille simple d'un milieu rural, humble. Mais ces paroles peuvent aussi s'appliquer à Jésus-Christ, parce qu'en prenant la forme d'un homme et en subissant le martyre, il est descendu de son piédestal céleste pour s'humilier plus bas que terre. C'est aussi pour cela que dans les évangiles, le plus souvent il se présentait comme le Fils de l'homme et qu'il a dit de lui-même « Je suis doux et humble de cœur ». Dans l'Évangile, Jésus se déclare le pain de vie et le vrai cep. Le pain symbolise les aliments nécessaires à la vie et le cep fait référence au vin qui égaye l'existence. Tous deux contribuent au bonheur de l'homme. Mais une jolie fleur au parfum agréable nous procure également du plaisir. Un proverbe de l'Ancien Testament dit « Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur ». Ce qu'on voit exerce une influence sur nos sentiments et inversement. On peut lire dans les yeux de quelqu'un ce qu'il ressent. C'est ce qui fait que dans la sagesse populaire, on dit « les yeux sont le miroir de l'âme ». D'après les Écritures, Jésus peut satisfaire pleinement les besoins profonds de l'homme et il est la vraie source de leur bonheur. Mais on peut aussi dire de lui qu'il est un lys parmi les ronces et un pommier parmi les arbres de la forêt. En effet, il est non seulement d'une grande beauté intérieure, mais aussi unique. Il se démarque totalement de tous les autres êtres humains. Sa pureté morale le rend digne de toute notre admiration et adoration. En dernier lieu, on peut aussi dire que Jésus est le pommier à l'ombre duquel j'ai grand plaisir à m'asseoir. Son fruit est doux à mon palais. Parce qu'il nous protège du mal qui sévit ici-bas et de la juste colère de Dieu contre les pécheurs. Son fruit est sa présence tendre et affectueuse à nos côtés et la vie éternelle dans l'autre monde. Je continue le texte du second chapitre du Cantique des Cantiques avec la septième photo de l'aventure entre Salomon et sa bien-aimée. Avec ce cliché et les suivants, nous allons voir que les deux amoureux se dirigent d'un pas décisif vers le mariage. Ces photos vont révéler un désir d'intimité de plus en plus grand, ainsi qu'un mûrissement de leur relation qui va intensifier leur amour et le conduire à de nouveaux sommets. Le premier de cette série de clichés montre Salomon et sa dulcinée dans la salle des fêtes du palais royal. La Sulamite est radieuse et ivre de l'amour de son bien-aimé. Je lis le texte. « Il m'a conduite dans la maison du vin et il a déployé sur moi l'étendard de l'amour. Restaurez-moi avec des gâteaux de raisin, soutenez-moi avec des pommes car je suis malade d'amour. » Que son bras gauche soutienne ma tête et que son bras droit m'enlace. Ô fille de Jérusalem, ô je vous en conjure par les gazelles ou par les biches de la campagne, n'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Versets 4 à 7. La maison du vin est une salle de réception et de banquet, mais dans ce passage, il a un sens figuré. Il exprime le fait que les deux amoureux s'enivrent l'un de l'autre de leur amour passionnel. Salomon a déployé sur sa bien-aimée l'étendard de l'amour. Cette combinaison de mots est particulière, car d'habitude, un étendard est l'enseigne d'un régiment, le symbole d'un parti, d'une cause ou de la patrie comme un drapeau. Il est mentionné dans la Marseillaise, « Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé ». La bannière des légions romaines était un emblème de conquête. Lorsque des soldats sont en campagne et que le lieutenant veut qu'ils se regroupent, il donne l'ordre de déployer l'étendard du bataillon afin que tout le monde sache où aller. Mais ça ne se fait peut-être plus parce que du temps où je faisais l'armée à Nancy, en Allemagne, je ne crois pas que nous avions un fanion quand nous partions crapahuter. Mais pendant des siècles, les hommes se sont rangés et ont combattu sous un étendard de guerre. Par contre, ici, c'est exactement le contraire, puisqu'il s'agit d'un étendard d'amour. Ce qui me fait penser au slogan des années 60 qui était « Faites l'amour et pas la guerre ». Les jeunes de l'époque qui ont conçu cette formule s'étaient peut-être bien inspirés de ce passage du Cantique des Cantiques. En tout cas, Salomon n'a certainement pas brandi sur sa bien-aimée une bannière sur laquelle il avait écrit « Amour ». Ce que la Sulamite dit est que l'amour du roi pour elle était tellement évident qu'elle n'en doutait pas et que tout le monde pouvait le voir comme s'il avait été écrit en grosses lettres sur un étendard au-dessus de sa tête. Ce que Salomon disait à sa dulcinée en tête-à-tête, il le proclamait aussi sur les toits, haut et fort pour ainsi dire, car il voulait que tout le monde le sache. Il n'était pas hypocrite, tendre et affectueux en privé, mais froid et sarcastique en public. Salomon, jeune roi d'Israël, n'a pas honte d'aimer la Sulamite, bien qu'elle soit paysanne, d'un rang social à peine supérieur à un esclave. Précédemment, elle a déjà exprimé qu'elle se sentait en sécurité avec lui parce qu'il aimait passer du temps avec elle et lui exprimait combien il l'aimait. Il n'est donc pas étonnant que cette simple bergère soit totalement épanouie, même si désormais elle fréquente régulièrement le palais et les gens de la cour du roi. On peut facilement donner une interprétation spirituelle, typologique à l'étendard comme symbole guerrier, car Dieu est engagé dans un combat, dans la conquête des âmes, des hommes, pour les ravir à Satan, le prince des ténèbres et le maître de cérémonie d'à peu près toutes les activités humaines de ce monde et surtout la religion et la politique. Le diable voyage beaucoup entre les grands centres mondiaux de pèlerinage. New York, le siège de l'ONU, Washington, bien sûr, mais aussi Paris, Londres, Berlin, Pékin, Moscou et toutes les autres capitales mondiales. Je lis un passage que l'apôtre Paul adressa à une église. « Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs, de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Fin de citation. L'étendard est aussi un emblème de protection. Quand Jésus est né, son père a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Les ennemis du Christ ne pouvaient rien faire contre lui avant que son heure ne vienne. Je lis un passage. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Fin de citation. Mais à la fin de son ministère, ce fut son heure. Je lis de passage. Jésus leur répond, « Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. Maintenant, mon âme est troublée, et que dire ? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. » Fin de citation. Alors, il fut livré à Pilate, qui le fit battre à coups de fouet. Ils se sont moqués de lui, l'ont frappé, puis crucifié. Et alors qu'il était sur la croix, les religieux l'ont tourné en dérision, disant « Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. N'a-t-il pas dit « Je suis le Fils de Dieu » ?» Fin de citation. Mais Dieu était fier de son Fils, pourrait-on dire, et il l'a ressuscité des morts. Et maintenant, la bannière du salut flotte sur ceux qui lui appartiennent. L'étendard est aussi un emblème d'enrôlement. Pour ma part, j'ai été incorporé dans l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre, sans qu'on me demande mon avis, tandis que l'armée du Seigneur ne se compose que de volontaires. L'apôtre Paul écrit aux croyants d'une église, « Je vous invite, frères, à cause de l'immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel raisonnable. » Fin de citation. La salumite est tellement amoureuse qu'elle se sent physiquement affaiblie au point où elle demande « Restaurez-moi avec des gâteaux de raisin, soutenez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. » Ce thème d'un amour si fort qu'il rend ivre et malade était courant dans les poèmes de l'ancien Proche-Orient qui célébrait l'amour. La dévotion de la Sulamite pour son bien-aimé est si intense qu'elle brûle de le lui manifester physiquement. Les gâteaux de raisin et les pommes symbolisaient l'amour parce qu'ils étaient utilisés comme fortifiants par les amoureux. À un niveau spirituel, être malade d'amour n'est pas chose commune parce que bien peu de gens aiment Dieu à ce point, en tout cas pas moi. Je dois bien le reconnaître. À ce que j'ai lu, certains mystiques ont eu des extases religieuses comparables à ce qu'a vécu la Sulamite. Dans une de ses épîtres, l'apôtre Paul nous fait part d'une de ses expériences qui est tout à fait extraordinaire. Je résume le passage. « Je connais un homme croyant qui a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps ou hors de son corps, je ne sais pas. Je sais seulement que cet homme a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. » Fin de citation. Ceux d'entre nous qui sont croyants ont tout juste mis le pied sur le pas d'entrée de la porte du paradis, mais nous ne connaissons rien de l'amour de Dieu qui règne à l'intérieur. Alors on n'a pas encore besoin des gâteaux de raisin ni des pommes. Mais je sais que tous ceux qui assisteront au festin de noces de l'agneau connaîtront un tel ravissement, car leur relation avec Jésus sera alors parfaite.
Tu vois ta vie défiler avec tes yeux d'adolescent qui ne comprennent pas pourquoi il faudrait racheter le temps. Tu as confiance en l'avenir et le succès, tu le désires. Tu donnes la main à tes copains, l'amusement est ton refrain, c'est bien. Tu dis que tu t'en moques ou que tu as pas le temps, que tu vis ton époque, souris à l'air du temps, penser à l'avenir, alors que tu respires, tu veux en rire. Tu joues à cache-cache avec la vérité, tu refuses et tu gâches toute ta liberté. Réfléchir à ton Dieu, ça fait un peu vieux jeu, tu fermes les yeux. Tu as assuré ton destin et planifié tout ton chemin. Tu es le maître de ton bien et rien ne gêne ton lendemain. Des fois tu penses à l'au-delà et ça te donne un peu de tracas. Mais tu as vite oublié, dans la vie il ne faut pas s'encombrer, trop penser. Tu dis que tu t'en moques ou que tu as pas le temps, que tu vis ton époque, souris à l'air du temps, penser à l'avenir alors que tu respires, tu veux en rire. À cache-cache avec la vérité, tu refuses et tu gâches toute ta liberté. Réfléchir à ton Dieu, ça fait un peu vieux jeu, tu fermes les yeux. Tu vois ta vie qui a défilé. Tu vois le temps qui est passé, tu te demandes encore une fois ce qu'il restera de toi, mais tu es bien trop fatigué pour vraiment encore y penser. La vie, les coups ont tous pesé, mais où passeras-tu ton éternité? Tu t'en moques ou que tu as pas le temps, que tu vis ton époque, souris à l'air du temps, penser à l'avenir alors que tu respires, tu veux en rire. Tu joues à cache-cache avec la vérité, tu refuses et tu gâches toute ta liberté. Réfléchir à ton Dieu, ça fait un peu vieux jeu, tu fermes les yeux.
C'est Manu Richert qui, à l'instant, nous a fait partager ce beau chant intitulé « Tu fermes les yeux ». Sans nous en rendre compte, nous arrivons à la fin de notre rubrique pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas une fin, puisque vous pouvez nous retrouver sur notre site internet chemindevie.info, avec chemin au pluriel et le tout en un seul mot, chemindevie.info.
Nous vous rappelons notre téléphone, 0820 200 628. C'est un numéro Indigo. 0820 200 628. Quel que soit votre choix, nous pouvons vous envoyer gratuitement le texte de ce jour ainsi que des précédents, ou une Bible, ce qui vous permettra de mieux suivre Chemin de Vie.
En attendant lundi, nous vous disons au revoir.
Bon week-end.